hombres de Musay o Cantón Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, j'ai lu de combattir au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans ce premier numéro de Parole aux auditeurs de la semaine. Le président national de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, Vital Kamerhe, exhorte le G7 à se ressaisir de son idée de désigner un candidat à la présidentielle prochaine en République démocratique du Congo. Il estime que la question d'une candidature unique de l'opposition n'est pas opportune. L'idéal pour lui serait de gagner d'abord la bataille de l'organisation de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Entre-temps, la Commission africaine vient de désigner Edem Kodjo, facilitateur du dialogue national politique convoqué par Joseph Kabila pour débattre de la problématique des élections en RDC. Comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiokapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Merci à toute l'équipe qui concourt à la production de ce programme. Pierre Lamégi est à la réalisation. Eric Sidiakala est à la technique. Et Julie César Bongonda au standard de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Martin Sebou-Janvier. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Vital Kamerhe, nous avons le plaisir de vous recevoir dans ce studio. Vous êtes président honoraire de l'Assemblée nationale, actuellement le président national de l'Union pour la Nation, congolaise. Voilà, bonjour et bienvenue dans cette émission. Parole aux auditeurs.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
C'est toujours avec plaisir que nous vous recevons après une année. Parce que la dernière fois que vous avez fait les déplacements de ce studio, c'était pratiquement en 2015, au début, pratiquement au premier trimestre.
Oui, le plaisir est partagé. Nous sommes là, nous sommes avant tout au service du peuple qui doit être informé. Et nous sommes donc les serviteurs de ce peuple. À tout moment, en cas de besoin, nous serons là.
Alors, dans une déclaration politique lue le vendredi 21 août 2015 à Kinshasa, la dynamique de l'opposition ainsi que la société civile avait lancé officiellement la campagne de sensibilisation de la population sur l'importance de l'enrôlement. Alors, la pression que vous faites aujourd'hui pour le respect du délai constitutionnel ne crise pas de l'irresponsabilité? Dès lors que vous le saviez donc, organiser les élections d'ici le 27 novembre, c'est accepter d'y aller avec le même fichier de 2011, n'est-ce pas là demander une chose de son contraire?
Non, nous sommes restés dans ce que nous avons convenu au niveau de la dynamique de l'opposition et par la suite avec nos amis des G7 qui nous ont rejoints, et puis nous avons créé ce qu'on appelait le concitoyen au Sénégal, à l'île de Gaulle. Et nous avions convenu que nous devons nous battre pour offrir au peuple congolais les élections dans les délais constitutionnels. Il n'est pas question pour nous de cautionner un jour de glissement ou un report d'élection. Donc ces efforts-là sont constants et je dis que la pression doit monter parce que nous avons une date phare, c'est la date du 20 septembre 2016, elle est constitutionnelle. Parce que la CD sera mise devant ses responsabilités, elle sera obligée et n'a pas de prétexte avancé à convoquer le scrutin présidentiel. Ça doit être convoqué le 20 septembre.
Et alors, certaines personnes nous soutiennent l'idée que le plus important, c'est qu'il y ait des élections, que le scrutin remplisse les conditions requises et ne puisse pas porter les germes des conflits, par exemple.
Oui, mais dès lors que nous avons tous participer aux élections de 2011, qui étaient chaotiques. Et nous savions que gouverner, c'est prévoir. Nous avions dit plus jamais ça. C'est nous de l'opposition qui avions proposé ce qu'on appelait le plan d'Addis Abeba, pour que nous puissions à ce moment-là dialoguer avec le président Kabila pour lui dire que vous avez triché. Et ceci va plonger le pays dans une crise de légitimité. Comment résoudre cette crise de légitimité avec un pays avec deux présidents de la République? président Kabila proclamé et investi par la Cour suprême de justice. Le président Tshisekedi qui s'est proclamé président et accompagné par l'opinion publique. Nous disions qu'il y avait de l'électricité à l'air. On n'a pas voulu nous écouter. Et heureusement, les confessions religieuses nous ont emboîté le pas parce qu'elles avaient écrit en date 5 février 2012 séparément au président Kabila, au président Tshisekedi et à votre humble serviteur Vital Kamerhe pour nous demander à chacun de nous de discuter à trois à ce moment-là pour éviter une crise qui pointait à l'horizon au pays. J'étais le seul à avoir répondu positivement à ce moment-là et puis il y a eu le M23 qui était prévisible et on a croisé les bras jusqu'au moment où le secrétaire général des Nations Unies le 24 février 2013 comme des petits-enfants, comme si nous n'étions pas gouvernés, on est venu nous imposer finalement l'accord cadre d'Addis Abeba, qui avait été signé par le président Kabila, pas par le président Vital Kamerhe, ni Étienne Tshisekedi. Il appartenait donc au président Kabila de respecter sa signature et d'autres présidents de la région et les organisations internationales. C'est tout ce qu'on a demandé. Mais au lieu de cela, on a commencé à crier d'abord l'ONIP. Nous avons dit, nous vous voyons venir, nous avons commencé le combat, tout ça, à ma constitution. Nous avons commencé ce combat-là depuis 2012, on n'a pas attendu. Donc on n'a pas attendu 2014 ni 2015, et puis finalement, on nous a amenés dans des concertations que nous, l'INC, nous avions refusées avec d'autres partis de l'opposition. Nous étions comme des saints Thomas. Aujourd'hui, je crois que le temps nous donne raison, puisqu'il y a 700 recommandations et résolutions, notamment libération des médias fermés, libération des prisonniers politiques, et puis le respect de la Constitution. Dites-moi si ces résolutions-là ont été appliquées. Pourquoi un autre dialogue alors que nous avons des recommandations, même si nous n'avions pas pris part à ces concertations que nous avons acceptées. En janvier 2015, je ne vais pas vous le rappeler, finalement le gouvernement a décidé de faire un partage en force avec un projet de loi conditionnant la tenue des élections par l'organisation du recensement général de la population, tout en sachant que recenser 75 millions de Congolais, ça prendrait peut-être 10 ans, parce qu'on n'a même pas encore fini à recenser tout le monde militaire, tout le monde policier, et même les fonctionnaires. Nous avons dit à la population, trop c'est trop. On a commencé le 12 janvier, quand on a tiré sur Koudoura Kassongo et les autres amis qui ont failli passer, les Fayoulou et tous les autres, nous étions là les gens de Seboussa, tous les députés étaient là. Finalement, nous avons repris le contrôle de la situation le 19 janvier. Allez, jusqu'au 25 janvier, il y a eu 43 morts. Et vous semblez oublier que finalement, on a découvert les charniers des Maloukou, dont le peuple congolais versait son sang. Donc, c'est ça là, aujourd'hui, nous voulons faire en sorte que nous ayons des élections. Alors, nous demandons donc au président Kabila une seule chose. Respecter la Constitution qui vous demande de partir le 20 janvier, le 20 décembre 2016. Le 19 décembre 2016, votre mandat prend fin. Ce n'est pas la fin du monde. Vous serez sénateur à vie et vous allez entrer dans l'histoire de notre pays. C'est ce qu'on demande. Voilà. Donc, on comprend pour vous, le dialogue est inopportun, mais quelque part, vos propos.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Bon, le dialogue au niveau de la dynamique de l'opposition. Aujourd'hui, le dialogue, c'est la tripartite. On avait déjà commencé avec Martin Kobler. On avait commencé ça avec l'envoi spécial des États-Unis d'Amérique. Nous avions accepté de discuter avec la CENI, avec la majorité et l'opposition. Nous étions très avancés. La question était très simple. Nous devions faire un nouveau fichier électoral. Nous devions nous mettre d'accord sur le calendrier électoral réaliste et réalisable. Et nous avions le temps pour le faire à ce moment-là. Finalement, on nous a bombardé un calendrier plus que global.
Alors maintenant, qu'il n'y a plus de temps.
Est-ce que vous avez
confronté
parce que la CENI a proposé plus de 12 mois, 14 mois.
Est-ce que pour la révision
de... Bon, maintenant, dites-moi, puisque c'est vous qui posez des questions, et j'accepte vos questions, et puisque vous parlez avec la CENI, après avoir fait l'enrôlement, puisque la CENI a parlé exactement de 16 mois, mais est-ce que la CENI vous a indiqué la date de la tenue de l'élection présidentielle?
Et la CENI,
elle n'a pas indiqué cela.
C'est
pour montrer que la volonté même d'organiser les élections après la date constitutionnelle, ce n'est pas l'ordre du jour de nos
annonces.
La CENI, je dois ajouter que nous avions répondu pour dire à la CENI qu'elle avait violé la Constitution.
Voilà. Alors revenons maintenant à votre sortie médiatique lorsque vous parlez sur France 4, si ma mémoire est très bonne, dernièrement, vous avez exhorter le G7 à se ressaisir de son idée de devenir un candidat à la présidentielle prochaine à RDC. Mais on prenait besoin de le rappeler, après la réunion du sommet États-Unis-Afrique, vous avez pris part à ce sommet, nous n'évoquerons pas ici les conditions dans lesquelles vous avez pu participer à cette réunion. mais nous nous tenons à toutes les causeries que nous avons eues à Nantes, à l'équipe de Parole aux Auditeurs, lorsque vous avez confirmé l'idée d'avoir une candidature, en tout cas travailler dans le sens de la candidature unique de l'opposition. Alors aujourd'hui, à entendre vos propos, c'est comme si ce que vient de faire le G7, c'est une trahison pour l'opposition.
Non, loin de là, c'est moi l'idée de dire que le G7 n'a trahi personne. Tout ce que j'ai dit au G7, à chaque chose son temps. Puisque les débats, maintenant, c'est le débat des principes et des valeurs. Vous savez, quand on quitte le débat des principes et des valeurs pour amener les débats sur les individus, on s'éloigne de la rationalité et c'est la passion qui prend le dessus et on va droit dans le passé. Ici, la question, ce n'est pas maintenant là d'accompagner un d'entre nous, fut-il le meilleur. Et c'est ce qu'a dit Vital Kamerhe, Katumbi et tous les autres. Le problème ici, c'est d'abord de partager les valeurs, la vision, incarner le combat de tout un peuple pour faire rêver ce peuple. Où est-ce que nous les amenons? Et le moment viendra où nous allons dire, pique, nous avons obtenu finalement les calendriers électoraux. Nous connaissons la date de la tenue des élections. Mettons-nous maintenant autour de la table, parce qu'il n'y a qu'un seul côté présidentiel, mais ce sera l'équipe qui va diriger. C'est ça notre conception de la nouvelle gouvernance de la RDC. Donc je ne suis pas là, et je voudrais que cette mise au point soit bien comprise. On ne peut pas partager les gibiers qu'on n'a pas encore abattus. Donc moi, je ne suis pas encore convaincu que le pouvoir a cessé de rêver du glissement ou de la révision constitutionnelle. Ça reste dans sa stratégie, et si nous, au niveau de l'opposition, nous disons très bien, le pouvoir est fatigué, le pouvoir a accepté les élections dans les délais constitutionnels, parlons maintenant de nos candidatures, c'est fini, nous allons nous diviser et nous allons faire parler nos cœurs, puis chacun de nous dirait que le meilleur. Merci beaucoup, Vital Kamerhe. Nous vous recevons donc avec plaisir dans ce studio. On va ouvrir le standard d'un moment à l'autre pour accueillir également les auditeurs qui, en fait, font cette émission, qui participent et qui contribuent de manière également positive et objective dans cette émission. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Chaque jour, la fréquence de la TNU le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Voilà, merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Maître Damas, vous êtes à Kinshasa, merci de nous avoir rejoint. Bonjour, Maître Damas.
Bonjour.
Vous avez la parole. Quel est votre avis par rapport à l'actualité?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je salue le président Vital Kamerhe qui est dans le studio. Je mets cet avis. D'abord, je commence par féliciter le président Kamerhe pour sa prise de position, surtout en cette question qui concerne la candidature unique de l'opposition. J'aimerais apporter ma contribution en disant que nous le savons tous bien, que la candidature unique reste le leitmotiv de toute l'opposition, et nous évitons qu'on se mette à courir dans tous les sens avant d'atteindre ce qu'on est en train de rechercher, ça veut dire la date des élections, bien que nous l'avons déjà, mais nous n'avons pas obtenu le calendrier électoral de la part de la CENI. Voilà pourquoi moi j'appuie cette position du président Vital Kamerhe.
Alors, quelque part, nous avons dit que la Commission africaine vient de désigner Adam Kodjo, facilitateur du dialogue national politique convoqué par Joseph Kabila. Est-ce que vous estimez, comme les autres, que ça sera la seule voie, en tout cas pour aider à résoudre toute la problématique des élections en RDC?
Non, monsieur le journaliste. Moi, je ne vois pas les choses de cette manière-là. Nous disons que le dialogue est faux-fuyant. Pour l'instant, le dialogue n'est pas opportun. Nous insistons que le dialogue n'est pas opportun. Moi, je peux bien vous le démontrer. Allez-y tout simplement analyser l'ordonnance convoquant le même dialogue. Le président, ou dans cette ordonnance, il est dit quelque part que les résolutions du dialogue vont être transmises au chef de l'État qui, à son tour, va le transférer ou le rédiger ou le diriger, si vous voulez, vers les organes ou les institutions concernées. Mais ces institutions, nous les avons toujours. Nous avons une constitution dans ce pays qui répond ou qui résout toutes ces questions. Pourquoi alors aujourd'hui commencer d'abord par rédiger, diriger vers les chefs de l'État, résolution du dialogue, qui va prendre le temps, comme toujours, pour les envoyer maintenant auprès des institutions concernées. Nous pensons que ça va prendre encore beaucoup de temps et c'est un glissement que ceux qui acceptent d'aller au dialogue vont cautionner.
Merci beaucoup, Maître Damas, d'avoir appelé de Kinshasa. Et là, vous insistez que la candidature unique, ça reste donc le leitmotiv de toute l'opposition. Et vous saluez de demain, en fait, la position du président national de l'UNC qui exhorte, en fait, ses collègues de l'opposition de pouvoir se retenir de leur idée de désigner un candidat à la présidentielle maintenant, parce que la bataille, c'est d'abord d'arracher les calendriers des élections dans les délais constitutionnels. Merci beaucoup. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, cher Ndembo. Bonjour à l'honorable Vital Kamerhe.
Bonjour. Vous avez la parole, Maître Adrien.
Oui, merci de la parole que vous m'accordez. Je pense que c'est pour la première fois que je ne suis pas d'accord avec la proposition ou l'idée de l'honorable Kamerhe, parce que à l'entendre parler, il faut d'abord se battre pour arracher le calendrier électoral et puis venir maintenant s'organiser. Bon, moi, je pense que il risque un peu d'attendre longtemps. Et pourtant, moi, je salue donc la magnanimité de nos amis de G7. Parce qu'il faut commencer d'abord par là. Organiser d'abord la maison et voir maintenant comment est-ce qu'il faut se battre par après. Parce que si nous allons dans la logique de l'honorable Vital, je pense que l'opposition ou bien son parti risque vraiment de rester en retard. Parce qu'ils peuvent se battre, comme il est en train de le dire, et pour arracher ce calendrier-là, peut-être la dernière minute. Quand est-ce qu'ils vont s'organiser pour convoquer le congrès afin qu'on puisse choisir un candidat? Là, c'est un point. Deuxième point, la fameuse problème de la candidature unique, moi, je pense que c'est un faux problème et je vous dis clairement que ça ne peut pas se réaliser dans un pays comme le nôtre. Parce qu'il y a ceux-là qui ont certes les soucis de travail pour le peuple congolais, il y a aussi ceux-là qui viennent pour brouiller la carte au sein de l'opposition. Donc, je n'aimerais pas revenir sur l'histoire. Donc, l'histoire risque de rattraper les uns ou bien les autres.
Alors, M. Patrier, parce qu'on doit aller vite, il y a vraiment les combinés, n'arrête pas de sonner. Nous donnerons peut-être, on accordera la parole aux uns aux autres, une minute à chacun, et ça suffit déjà. Mais juste une question de relance pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez, vous pensez comme les autres que, disons, la désignation de Demkojo comme facilitateur, le dialogue ou les conditions pour l'organisation, la tenue de ces dialogues, elles sont maintenant remplies. Il n'y a plus de doute, les dialogues, c'est inévitable maintenant.
Oui, je pense que si nous sommes de bonne foi avec l'arrivée de Demkojo, surtout avec la résolution 2277, c'est déjà une solution parce que là, il n'y a pas la crainte qu'il y aura glissement, il y aura quoi que ce soit. Tout le monde est d'accord, même le pouvoir fait que il n'a pas droit à l'erreur, au glissement, parce que nous sommes tous liés par la Constitution et par la résolution 2277.
Donc
je pense que
s'il
y a ceux-là qui veulent encore dire qu'il n'y a pas raison d'aller au dialogue, c'est ceux-là qui sont en train de bloquer les mécanismes.
Merci.
Pour qu'on puisse organiser les élections.
Merci beaucoup, Maître Adrien, et nous annonçons d'ailleurs à tous les auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre qu'effectivement, dans 48 heures, nous aurons organisé une émission de Parole aux auditeurs autour de la résolution 2277 qui semble un peu diviser les uns les autres, même au sein de l'opposition et de la majorité. Donc, nous aurons à revoir un peu les caractères contraignants de toute cette résolution. Arsène, vous êtes à Kikwit. Bonjour, Arsène.
Bonjour Monsieur Gilles, bonjour à l'honorable,
bonjour.
Et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quel est votre avis, Arsène?
Mon avis, je crois que je vais diviser cette histoire en trois parties. La première partie, c'est ce qui concerne le dialogue. Le dialogue, on en a trop parlé. Moi, je crois qu'il faut laisser les morts enterrer leurs morts. Mais ce dialogue-là, c'est comme je le disais, vertu pour la vie humaine. Qu'on aille se parler. Mais je crois qu'il y a des faux fuyants dans ce dialogue aussi que nous sommes en train de penser. Et Donc, ils vont aller au dialogue. Je crois qu'il y a deux positions là-bas. Il y a de ceux qui veulent prendre le pouvoir, de ceux qui essaient un peu de chercher comment dépoter parce que par la Constitution nous donne une certaine légitimité. En ce qui concerne la position de l'honorable Vital Kamerhe, moi je crois que aujourd'hui il faut que l'opposition cesse de se diviser dans des petites histoires. La candidature, ça c'est une petite histoire, parce qu'il n'y aura pas de président, il n'y aura qu'un seul président. Donc, il vaut mieux, au lieu de faire, s'il ne faut pas le dire dans ces mots-là, de faire la propagande des prises de position, il faut se réserver et regarder plus ceux qui vont au dialogue. Quelles sont leurs intentions? C'est exactement ce qui s'est passé l'année passée. Il faut très bien le suivre, pas par pas, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils veulent dire. Permettez-moi, vous voulez?
Et allez-y rapidement, parce qu'il y a des effets qui sont à votre
dire. C'est parce que si nous les suivons correctement, au premier moment qu'ils commettront une bêtise, qui ira faire la bousculade de la Constitution, là, en tout cas, que personne n'hésite, nous allons le bloquer comme l'année passée.
Voilà, Arsène, merci.
Merci beaucoup. Le calendrier, nous l'attendons.
Merci beaucoup, Arsène. Vous attendez le calendrier. Pour vous, vous estimez que il faudrait en ce moment laisser ceux qui soutiennent le dialogue d'aller au dialogue et qu'ils prennent leurs décisions, disons qu'il s'agisse de la majorité ou de l'opposition, mais ceux qui gardent encore leur sang-froid en refusant carrément les dialogues, ils n'ont qu'à se mettre à l'écart de toute situation. Merci beaucoup. Alors on va terminer cette première série avec vous, Joséphine Desbossons, avant de revenir dans ce studio avec notre invité Vital Kamerhe, président national de l'UNC. Joséphine, bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour, Radio Capi. Je vous remercie beaucoup de m'avoir passé la parole et je salue Monsieur Vital Kamerhe. Monsieur Vital Kamerhe, pour moi, c'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'il est intelligent. Mais par moments, je trouve qu'il utilise son intelligence pour faire pas du bien, mais peut-être le mal. Je vais d'emblée dire ceci. Monsieur Vital Kamerhe et son parti, Quand Vidépès avait demandé le dialogue dans le temps, ils étaient là, toute l'opposition avait accepté le dialogue et le pouvoir a refusé le dialogue. Maintenant, si nous devons suivre le canevas des dialogues, le pouvoir a refusé le dialogue, mais le pouvoir est venu avec la concertation. Monsieur Vital Kamerhe est parti. Dans son intelligence, est-ce qu'il ne peut pas voir que le pouvoir est en train de refuser le dialogue? Parce que c'est le dialogue qui va nous ouvrir les portes et des élections, les portes et des calendriers électoraux, les portes de tout. C'est ça ma question. Je demande à M. Vital Kamerhe de voir loin. Quand le pouvoir refuse refuser les dialogues, l'opposition accepter les dialogues. Maintenant que le pouvoir accepte les dialogues, mais c'est évident quand même comment ça refuse les dialogues.
Oui, mais madame, Joséphine, je ne sais pas quoi. Oui, quelle lecture faites-vous par rapport à ceux-là qui disent que on avait suffisamment de temps pour dialoguer après 2006, 2011, mais maintenant le temps n'est plus à notre faveur. Il faudrait aller vite aux élections et nous engager dans cette dynamique de l'alternance une fois pour toutes. Parce que pourquoi aujourd'hui on doit réduire le débat politique, le débat des élections sur les individus?
Monsieur Vital Kamerhe l'a dit là, il y a un contentieux électoral. Monsieur le président qui est là, Kabila, et monsieur Tshisekedi. Tous deux, ils disent qu'ils ont gagné les élections. C'est ça le problème. Si on n'arrive pas à trouver la solution à ce problème-là, ce contentieux-là, on ne va pas avancer. Il y a le blocage total.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame Joséphine, d'avoir appelé de Boston aux États-Unis. 081-890-6315 pour votre intervention.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons dans ce studio avec vous, Vital Kamerhe, président national de l'UNC. Vous venez de suivre cette série des auditeurs. Il y a les uns qui sont en tout cas pour le dialogue, d'autres qui ne partagent pas, en tout cas, l'idée de ceux-là qui soutiennent le dialogue. Et ils vous ont rejoint, en tout cas, dans la majorité de leurs interventions, en disant qu'effectivement, le dialogue n'est pas vraiment opportun en ce moment, parce que nous devons plutôt penser à aller aux élections et à nous engager dans cette dynamique de l'alternance. Alors, que répondez-vous aux uns aux autres ?
D'abord, nous devons apprendre à respecter l'opinion de chaque citoyen congolais. Je remercie tous ceux qui ont posé des questions et je dis qu'ils respectent leur opinion. C'est ça notre rôle. Notre rôle aussi, c'est donner l'éclairage parce que nous sommes les leaders. Et je voudrais dire que dialoguer pour faire les élections, ça devient une formule à la congolaise. Nous avions dialogué à Salt City et on avait dit que c'était la dernière fois qu'on dialoguait et qu'on ne dialoguera plus. Et le peuple va s'approprier son droit de désigner de façon souveraine ses dirigeants. Et nous voilà encore, nous devons nous retrouver autour d'une table pour confisquer ce pouvoir au peuple. Et vous savez très bien le danger avec les politiciens congolais et même la société civile. Et là, je relativise un peu. De se retrouver autour d'une table, on peut dire, c'est pour dialoguer, mais ça se termine toujours par jeter l'appât aux uns et aux autres, c'est-à-dire le partage équitable et équilibré de pouvoir. Nous refusons la répétition de l'histoire. Nous voulons dire aussi, le piège, ce dialogue, c'est un piège, puisque le pouvoir, Mme Joséphine l'a très bien dit, le pouvoir ne voulait pas de dialogue avant, mais elle ne m'a pas dit, elle ne s'est pas posé la question pourquoi le pouvoir ne voulait pas de dialogue avant, et pourquoi le pouvoir choisit la fin du mandat pour dire « nous acceptons maintenant le dialogue », mais à condition que ce soit sous la formule du président Kabila. Mais de l'autre côté, le président Félix Tshisekedi dit « nous voulons du dialogue, mais que ce soit chapeauté par la communauté internationale ». Aujourd'hui, nous devons reconnaître que la communauté internationale vient d'enlever au gouvernement Kabila le contrôle du dialogue et le 2277 vient de vider, en fait, puisque nous avons maintenant détecté à l'ordonnance de Kabila qui convoque le dialogue, nous avons le 2277 qui parle du dialogue qui doit respecter les délais constitutionnels. Nous souhaitons bonne chance à ceux qui veulent aller au dialogue dans le respect de leur foi, mais nous, de la dynamique comme de l'Union pour la nation congolaise et du G7, nous n'allons pas tirer sur ceux qui iront au dialogue. Nous faisons le Saint-Thomas parce que nous pensons que de l'autre côté, ils ne sont pas de bonne foi. Le président Tshisekedi, lui, c'est un monsieur, il est de bonne foi, mais en face de lui, il aura des gens qui viendront avec des calculs. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Kabila Totondiana Noté, c'est fini, donc on ne va plus parler de ça? Le ciel ne tombera pas sur la République démocratique du Congo s'il n'y a pas d'élection. On avait suivi le gouverneur du Nord qui voulait dire. On a suivi des ministres le répéter ici. Est-ce que tout cela est fini? Alors, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Pour éviter de tourner en rond, puisqu'on va demander le secrétaire Kamere, qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous proposons est simple. Nous voulons organiser les élections. Nous avons la Commission électorale nationale indépendante. Avec un fichier, les uns disent qu'elle est, elle n'est pas crédible. D'autres disent, bon, on peut la crédibiliser, on peut la fiabiliser. Le fichier électoral doit être refait, on l'avait dit. Et l'OIF, l'Organisation francophone internationale, avait fait un audit à la demande de la CENI. La CENI s'est fait piéger elle-même, puisque à l'issue de cette audit, l'OIF a démontré qu'au bout de 4 mois, on peut terminer l'enrôlement. Donc, il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Le président Kabila en 2011, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Quand il s'est assuré que maintenant il peut contrôler les élections, il a révisé la constitution. Pasteur Mulumba a commencé l'enrôlement en quel mois? Peut-être que vous avez oublié. Il avait commencé à la fin du mois de mars, au mois d'avril. Et il a organisé les élections le 28 novembre pour donner la victoire à sa manière au président Kabila. Donc, ici, ce n'est pas le moyen. Ce n'est pas le temps qui manque. C'est la volonté politique qui manque. Et moi, j'appuie. Ceux qui ont dit que les institutions de la République doivent être au-dessus des individus. Nous avons des institutions qui sont là pour travailler. Mais pourquoi on doit encore amener les questions de la République dans des conciliabiles extra-constitutionnels? Les dialogues s'affigurent dans quel dispositif de notre constitution? Nulle part. Nous disons aussi que en ce qui nous concerne, nous n'avons pas participé aux concertations, Mme Joséphine s'est trompée peut-être à ce niveau-là, et nous n'allons pas tirer sur ceux qui vont aller au dialogue, mais nous sommes convaincus qu'en ce moment, c'est l'union qui va faire la force. Et je suis très content d'avoir lu dans la lettre du président Étienne Tshisekedi, répondant au 22-60-17, en disant que c'est le pouvoir qui portera la responsabilité de l'échec et du report des élections, et que le 24 avril, et c'est très bien,
on se réjouit. Mais ce n'est pas un secret aujourd'hui, parce que le Sénat a sollicité l'extension du délai constitutionnel. À l'intention.
Laissez-moi d'abord terminer, puisque la matière est très importante.
Tout à fait.
Ici, je sais, nous allons vers les convergences, pas parallèles, nous allons vers les convergences. Et ça me réjouit, puisque j'ai toujours peiné que nous soyons dans ce que nous appelons le point de convergence parallèle avec l'IDPS. Mais quand le président de Tshisekedi, le 24 avril, il va appeler le peuple pour prendre ses responsabilités vis-à-vis de ce pouvoir. Mais nous l'avons dit aussi au niveau de la dynamique. Et déjà, c'est que le 24 avril, nous devons appeler le peuple à s'exprimer encore de la manière la plus audible, peut-être la fois passée avec le silence, puisque quand on fait la ville morte, on ne parle pas, mais les gens voient quand même que le peuple est en colère. Peut-être avec les marches du 19 au 25 janvier 2015, le pouvoir n'avait pas entendu. Cette fois-ci, nous allons, le 24 avril, encore une fois demander.
Est-ce qu'on peut considérer ça comme une menace?
C'est le pouvoir. C'est dans notre constitution et c'est dans les lois sur les manifestations publiques. Les lettres ont été adressées au gouverneur de la ville de la province de Kinshasa. Donc, ce n'est pas secret pour personne. Je salue cette concordance de vues et d'opinions. Même si les uns veulent aller au dialogue, nous disons bonne chance à ceux qui veulent y aller. Et nous disons, peut-être pour tranquilliser les uns les autres, s'ils adoptent des résolutions qui restent dans les délais constitutionnels, Vital Kamerhe sera le premier à dire mea culpa et je vais signer après tout le monde.
Mais je n'y participe. Alors, il y a quelqu'un de Bukavu qui vient de nous appeler. Amato, vous êtes en ligne?
Oui, M. Gilles, je suis en ligne, je vous salue, je salue M. Kamerhe.
Bonjour.
Donc, je soutiens le combat de la démocratisation et de développement de la RDC, je salue tous les auditeurs de la radio éducative.
Alors, quel est votre avis par rapport à la position du président national de l'UNC qui exhorte les G7 à se refuser de solider de désigner un candidat à la présidentielle? Et entre-temps, il y a la Commission africaine qui vient de désigner Edem Kodjo, facilitateur du dialogue.
Oui, la première position, la position soutenue par M. Kamerhe qui a demandé aux G7 de se refuser, je crois que c'est important, c'est une position à soutenir. Nous, Congolais, nous voudrions inviter l'opposition à travailler étape par étape. Ça veut dire qu'on doit se dire qu'on est dans un combat où la démocratie et les élections ne nous seront pas réunies sur une table avec un pouvoir qui ne veut pas lâcher organiser des élections. On doit travailler méthodologiquement et avec l'intelligence. Vous savez que dans ce pays, il y a des milliers et des milliers de candidats, députés provinciaux qui ont déposé des cautions, qui ont fait des cautions, et aujourd'hui, on ne dit rien. Mais maintenant, cette nouvelle candidature aujourd'hui, désignée par les G7, dont je respecte les points de vue, sera déposée à quelle date? Au regard de quel calendrier? Donc, au lieu de commencer par la dernière étape, nous devons d'abord nous battre pour qu'on obtienne donc dans une garantie électorale claire et une garantie qu'on va aller aux élections. C'est après cette étape, parce que le pouvoir aujourd'hui utilise beaucoup de moyens, de stratégies pour diviser l'opposition. Aujourd'hui, vous voyez que la question du dialogue divise l'opposition. Si on commence maintenant à parler aussi de la question des individus qui va être candidat, comme elle le disait Kamerhe à TV5, ça serait comme si on partageait une idée qu'on n'a pas encore abattue.
Amato, que répondez-vous à ceux-là qui disent que la pression qui monte d'un cran autour du délai constitutionnel, c'est en fait prise l'irresponsabilité?
Oui, j'ai suivi le ministre de la Justice qui a dit que c'est une responsabilité. Mais je me demande, entre respecter la Constitution, entre demander qu'on respecte la Constitution, et se taire alors qu'on a l'obligation de respecter la Constitution. Il faut rappeler que le chef de l'État a l'obligation de respecter et de faire respecter la Constitution. Vous savez bien que moi, quel est le français à retenir à sa charge si la Constitution est violée par son chef ou par le fait qu'il n'a rien fait. Il a l'obligation de faire fonctionner toutes les institutions constitution, du bon fonctionnement de l'Union de la République, y compris la CENI. Donc si la CENI n'a pas de moyens pour organiser les élections, dans les données constitutionnelles, il y a quelqu'un qui peut se répondre un jour ou l'autre devant l'histoire de la démocratie du Congo.
Merci beaucoup, Abba.
C'est cette position du ministre, M. Giner, c'est cette position du ministre qui dit que quand le Conseil de sécurité, quand les Nations Unies, quand la société civile demande que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels, c'est une responsabilité. C'est cela qui démontre, justement, comme le disait M. Caméré, que le gouvernement n'a pas la volonté d'organiser des élections. De la question du dialogue, je voudrais rappeler, M. Caméré au studio, que lui, il en avait suivi aux médias, a déjà, depuis 2012, demandé qu'on fasse un dialogue. Les archevêques avaient tous les respects que nous devons. Ils avaient fait un tour chez le président de la République. Chez Kamel, c'est ce qu'il dit pour demander qu'il y ait un dialogue. À ce moment-là, on avait tous les temps pour régler tous les problèmes. Nous avions appris qu'il n'y avait pas de crise. Je demande aujourd'hui quelle est la crise à résoudre aujourd'hui. Au lieu qu'on demande qu'on se réunisse autour des problèmes vitaux des citoyens, on ne veut pas qu'on dialogue autour des
gens.
On veut dialoguer, prolonger. Les mandats,
tout voilà, vous craignez. Voilà, merci beaucoup, Amato, comme d'autres prédécesseurs, vos prédécesseurs. Vous craignez assez qu'on puisse, disons, aller au-delà du délai constitutionnel, et, c'est-à-dire, communément, les gens appellent ça glissement. Donc, c'est l'inquiétude que vous avez. Je crois que c'est la même inquiétude qu'a aujourd'hui Michel. Vous êtes à Matadi, Michel.
Bonjour, monsieur.
Oui, vous avez la parole, Michel.
Ah oui, vous pouvez intervenir dans les sens. Vous savez, lorsque vous regardez toutes les grandes tranches de l'opposition, Vital Kamerhe, que ce soit le G7, que ce soit l'IDPS, les trois ont un dénominateur commun, c'est les délais constitutionnels. Voilà pourquoi, lorsque vous voyez tous ces partis, déjà je crois, c'est une avancée. Parce que lorsque vous suivez Vital Kamerhe, il parle, que ce soit de Tshisekedi, que ce soit de Katumbi, il parle de ses noms poliment. Moi, je crois que c'est déjà un atout. Mais j'ai une petite question à poser à cette caméra. Vous savez, nous nous battons non pas pour nous, mais nous nous battons pour les enfants, ceux qui doivent venir demain. Mais est-ce que Vital Kamerhe, comme il est au plateau, vous savez, le combat de la bureaucratie, c'est un combat qui n'est pas triste, il ne faut pas minimiser. C'est un combat qui demande des sacrifices. Est-ce que Vital Kamerhe, et porter ces sacrifices-là pour aller jusqu'au bout. Comme Mandela l'a fait, et comme Martin Luther King. Vous savez, moi j'ai toujours dit, il y a du four, l'un des combattants, l'un parmi les gens qui se sont battus pour la libération de la Suisse, il a dit ceci, tout ce que vous pouvez obtenir par la démocratie, vous l'obtiendrez par la révolution. À la ligne où vont les choses, ce n'est pas la force de l'opposition, c'est la force de la majorité. Et moi je dis aujourd'hui, M. Kabila doit faire attention. Pourquoi je le dis? Parce que l'histoire vous posera. Le président Kabila n'est pas venu au pouvoir par les élections. Donc il risque aussi de sortir par nos élections.
Je crois que nous ne devons pas biaiser l'histoire. C'est vrai, il y a eu 97, l'arrivée de l'AFDEL. 98 après, il y a eu tout ce que nous avons connu, la succession des guerres et des rébellions. En 2006, nous avons organisé les élections pour départager des belligérants. Alors en 2011, c'était la deuxième fois que nous avons eu l'occasion d'organiser encore les élections en Bolivie. Donc en 2016, ça sera pour la troisième fois que nous allons inscrire le nom de l'RDC dans l'échiquier mondial et aussi comme grand pays et disons à dimension continentale. Donc je crois qu'il y a eu des élections. Nous devons lever à l'idée que les institutions en place aujourd'hui, ce sont des institutions issues des guerres ou des rébellions.
Oui, mais moi je vais vous dire, et les élections que nous avons dites par rapport à la constitution que nous avons votée. Mais je vais vous poser la question, combien de fois cette constitution a été violée?
Voilà.
Moi je crois
nous que nous ne pourrons pas répondre à vos questions. Nous avons l'invité. Merci beaucoup, Michel. Nous allons reprendre le visage de Malte parce que vous avez posé une question directe. Monsieur Vital Kamerhe, est-ce que vous pouvez ramasser rapidement
Oui, je partage parfaitement le point de vue d'Amato de Bukavu et de Michel de Matadi. Vous avez essayé de l'intimider, mais je crois qu'il faut laisser aux auditeurs aussi de s'exprimer librement. Je crois que vous avez peur du ministre des médias. Je comprends votre position. Mais ce qu'il a dit est vrai. L'AFDEL, c'était la guerre. Et c'est à la suite de l'Afdel que nous avons connu l'assassinat finalement de M. Laurent Désiré Kabila. Je suis mieux placé pour le dire. Joseph Kabila a été investi le 26 janvier 2001. Il n'y a pas eu d'élection. Et puis il y a eu un plus 4. Je peux vous refaire l'histoire par cœur, date après date.
Donc le rapport qui a été corrigé.
Il ne faut pas intimider l'auditeur qui est en train de donner des conseils au président de la République.
Je pense que vous qui êtes le président de la campagne de
l'actualité. Voilà, j'ai démissionné après, c'est ça, être aussi un homme d'État. J'ai démissionné après. Donc je voudrais dire à Michel, c'est très bien. Ce que vous nous dites, vous devez le dire à tout le monde et le dire à vous-même. Ne demandez pas au pays ce qu'il va faire pour vous, mais ce que vous, vous comptez faire pour le pays. Ça, c'est Kennedy. Vous avez cité Martin Luther King, vous avez cité Mandela. Je vais aussi rappeler Kennedy. Et je voudrais vous dire que jusqu'au sacrifice suprême, c'est pourquoi j'ai dit, nous devons faire monter la pression, nous devons chasser la peur. Et le combat, pour le moment, c'est le combat des valeurs, des principes. Quelle vision nous allons partager? Et cette vision, finalement, nous allons nous poser la question après, elle sera incarnée par qui comme capitaine de l'équipe, puisque nous ne voulons plus de la gouvernance des hommes forts. Nous serons tous là et nous allons faire des concessions mutuelles. Je félicite beaucoup Michel parce qu'il a relevé les dénominateurs communs, les délais constitutionnels. Un autre dénominateur commun, non, obéissement. Et l'autre dénominateur commun, non, il faut ajouter aussi non à la transition, qui est un piège qui est contenu dans ce dialogue. Un autre, oui, à l'alternance. Nous disons la même chose, mais le combat diffère. Je voudrais dire à Michel, le combat c'est pour nos enfants. Et quand nous le faisons pour nos enfants, nous devons faire rêver les jeunes. Nous devons faire rêver les femmes, les paysans, qui sont les trois cibles de l'Union pour la nation congolaise. Dans notre vision, dans notre projet de société. Parce que quand vous touchez au problème des jeunes, vous y apportez des solutions au problème des femmes aujourd'hui violées. Et je salue en passant le docteur Mukwege à Bukavu, notre compatriote qui a été primé, mais pas encore primé par le gouvernement congolais. C'est une injustice.
Et que vous pensez qu'à cause de ces dénominateurs communs, que vous
devriez ajouter troisième cible, ce sont les paysans, les gens qui sont dans les villages. Si aujourd'hui, même ici, dans les quartiers généraux des Nations Unies, on coupe l'électricité de la semaine, est-ce que vous pouvez vous imaginer ce qui se passe dans Asakania? Vous pouvez vous imaginer ce qui se passe à Mwenelitu ou à Luozi ou alors à Bongandanga ou alors on peut aller très loin à Iziro. Donc nous devons nous dire avoir un projet de société. Et quand on l'a, on va dire, bon, écoutez, qui va le porter avec quel
équipe? Donc je ne suis pas en train de dire que le G7 a commis une faute.
Non. Il ne faut pas qu'à la fin de cette émission, on nous dise qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème. J'ai dit que j'ai bien respecté le choix du G7, mais j'ai dit, chers amis, attention. Arrêtons-nous là, puisque nous risquons d'entrer dans le combat des individus et on va éloigner la rationalité. Mais on ne peut pas terminer cette émission, et ça m'étonne, sans qu'on ne puisse parler de la tragédie que connaît la population du Nord-Kivu.
On va revenir à ça.
J'ai peur que l'émission se termine. Au moment où nous parlons, les gens sont tentés de mourir à Boutier, à Loubero, et moi, je n'accepterai pas de faire cette émission sans en parler.
Voilà, on va y dire. Et puis, il y a un groupe d'auditeurs qui nous a rejoint, Didier Kinshasa, Maître Sabouni à Kisangani, Madame Alfossi à Isiro. On va leur accorder également la parole. Didier, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et je salue également monsieur Vital Kamere. Monsieur Vital Kamere, j'aimerais dire ceci. Je vous ai entendu dans vos propos dire, il y a des slogans que nous entendons dernièrement du genre, Kabila n'a pas été une dureté. C'est une bonne chose, mais en fait, de la vie, ces gens, des discours ressemblent un tout petit peu à l'ouvrage que vous avez écrit, malheureusement, que moi je n'ai pas lu, et vous avez intitulé Pourquoi vous avez choisi Kabila. Donc, la question que je me pose, moi, est-ce qu'aujourd'hui, les problèmes, c'est Kabila ou les gens qui sont autour du président Kabila? Ça, c'est la première question. La deuxième, je pense qu'aux élections de 2006, M. Vital Kamerhe, vous avez été un acteur important à côté de M. Kabila. Et moi, je dis, M. Vital Kamerhe, que quand les punitions sont faussées, tout ce qu'on peut faire après, ne peut amener à un résultat du genre ce que nous vivons actuellement. Alors, j'ai entendu également dans vos propos, j'apprécie, quand vous dites que les dialogues qu'on nous appelle maintenant, c'est pour faire des conciliabules. Effectivement, c'est la classe politique qui se retrouve et qui veut encore nous flouer. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons nous organiser, comme l'avait dit le feu président Moussa Durand des États-Unis. Donc, M. Vital Kamerhe, nous croyons que nous devons faire fi et à vos propos de l'opposition et ceux de la majorité, et les peuples devraient s'organiser. Nous devons nous organiser. Il y a un auditeur tout à l'heure qui a touché un mot. Il a parlé de la révolution, mais bon, je crois que le journaliste n'a pas apprécié qu'on continue sur cette idée-là. Mais je crois que c'est ça le schéma idéal. Pour sortir les Congos, j'ai parlé du Congo. Avant moi, il y a un monsieur qu'on a appelé Malcolm X, dans son livre qui avait déjà parlé du Congo en 1964. Je crois que la voie qui est nécessaire pour nous pour sortir de tous ces farces auxquelles nous assistons, c'est ces mots que l'auditeur a utilisés, que moi je ne vais pas
utiliser.
Je ne sais pas, M. Vital Kamerhe, quel est votre point de vue?
Merci beaucoup, Didier, d'avoir rappelé et aussi d'avoir contribué dans cette émission et surtout d'avoir appuyé, vous avez eu le temps d'appuyer quand même les propos de Michel de Matadi tout à l'heure. Bon, si nous intervenons, c'est parce qu'on aime bien respecter les règles de cette émission, quelquefois, hein, ben, tout en respectant aussi la liberté des uns et des autres. Maître Sabouli, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour.
Vous aurez la parole, il faut être très précis et concis, oui. Parce que là, on n'a plus assez de temps.
Je salue d'abord M. Vital Kamerhe.
Bonjour.
Pour les déclarations qu'il vient de faire, parce que le non-participateur aujourd'hui n'a pas de place dans, au sein de notre politique aujourd'hui. Le président Vital Kamerhe, il est participateur au sein de Tiki. Il lui qui a amené le président Kabila au pouvoir. Il a utilisé tous les moyens. À ce moment-là, l'RCD a vu tous les actions. L'RCD donnait les positions claires et nettes. Même M. Kamerhe disait souvent allons consulter d'abord Kinshasa. C'est ça au niveau de Sanctuary. Mais nous sommes venus avec Kamerhe dans le dialogue de position et G7. Tous les gens qui suivent le G7 a aussi sa politique de position. Elle s'est manifestée librement. Il disait qu'elle a choisi le président à la candidature de la présidentielle. Ce n'est pas une jeune femme. Nous aussi, du dynamique, quand nous bien sommes, après le congrès, nous allons encore nous réunir pour voir à qui nous devons choisir. À ce moment-là, si nous sommes aujourd'hui là où nous sommes, à nous les partisans.
Oui, Maître Sabouli, juste une question de curiosité, et puis on va plus. Est-ce que vous partagez l'avis aujourd'hui qu'on peut adhérer à une idéologie et en sortir librement quand on estime que, disons, les intérêts de la communauté sont négligés? Les intérêts sont négligés.
Pour adhérer à cette idée-là.
C'est là où t'appelles la question de la démission. Voilà, merci beaucoup, Maître Sabouli. Oui, voilà, on va prendre une minute à madame, pour madame Paul-Cécile et Albert, une minute, et puis on reviendra à notre invité. Madame Paul-Cécile, vous êtes ici, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole.
Merci de m'avoir accordé la parole. Je salue le dossier de la radio Capi, ainsi que mon président Vital Kamerhe qui est invité du jour. Monsieur le journaliste, je pense que le G7 doit faire aussi beaucoup d'attention parce que actuellement, nous on a besoin d'une organisation autour de l'opposition. À peine sorti de la majorité, le G7 ne peut pas s'agender à raconter n'importe quoi et à nous présenter n'importe qui, soi-disant qu'il est candidat. Parce que nous, on en a affaire. Ce qui s'est passé à 2011, nous ne voulons plus de cette candidature-là. Nous voulons une candidature juste.
Voilà. Voilà. Merci beaucoup, madame. Donc, vous voulez, vous maintenez votre position, il faut une candidature unique, et ce n'est pas le moment. C'est comme l'ont dit également vos prédécesseurs. Merci. Albert, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Albert, et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Okapi. Bonjour, monsieur l'honorable Kamerhe.
Bonjour.
Oui, monsieur l'honorable Kamerhe, j'ai une préoccupation majeure. C'est par rapport à tout ce que nous avons connu comme mort par rapport aux événements, aux différents événements que nous avons connus dans notre pays, surtout dans le côté est de notre pays. Vous vous imaginez que nous, aujourd'hui, nous pouvons compter à peu près 8 millions de morts. Et jusqu'en ce moment, il n'y a personne qui a élevé sa voix, sauf aujourd'hui la coalition de la société civile avec un monsieur congolais qui est venu des États-Unis pour pouvoir publier cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous vous imaginez que vous venez à peine de dire que gouverner c'est prévoir. Avec ces millions d'hommes congolais qui sont décédés, vous ne pensez pas que vous approchez pour dialoguer afin de nous éviter encore de morts. C'est utile et nécessaire. Et surtout que ce côté-là, vous avez brigué beaucoup plus de voix. Ça, c'est la première préoccupation. Est-ce que vous ne pensez pas que accepter pour une semaine, deux semaines, puisque le délai exact pour organiser le dialogue n'est pas encore fixe, n'est-ce pas vous pourriez militer pour fixer dans un bref délai, par exemple une semaine, deux semaines, puisque les thématiques sont...
Voilà, merci beaucoup, Albert, d'avoir évoqué cette question relative à la sécurité, la question sécuritaire dans l'Est. Je crois que notre invité avait même souhaité pour revenir sur cette question. Alors, on va prendre juste pour une minute, Madame Marie, et puis on va conclure avec notre invité. Madame Marie-Cécile, vous êtes à Kinshasa.
Oui, merci beaucoup, monsieur, mais je regrette beaucoup que ce soit une minute. J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. Je regrette beaucoup. Et je vais dire tout d'abord, je suis au regret de constater que M. Eden vient ici pour dire qu'il convoque le dialogue selon le format Kabila. Mais ça, c'est triste et malheureux, puisque nous avons eu deux formats, format UDPS et format ceux qui se disent de la majorité. Et l'autre format de l'UDPS, c'est le format qui est proche de l'accord cadre d'Addis Abeba, que M. Kodo doit protéger. Et comment il peut tourner le dos à ce format-là et embrasser l'autre. Et vous avez sur votre plateau l'invité M. Kamere. On connaît leur jeu. Parce qu'ils auraient dû appuyer l'UDPS qui était proche de l'accord cadre d'Addis Abeba. Où on disait même qu'on avait réformé et toutes les institutions que nous avons sur place ici. Et alors, le problème de ceux qui sont au pouvoir allait être résolu.
Alors, madame, désolé.
Ils n'ont pas voulu appuyer.
Dommage, on ne saura pas aller plus loin avec vous, madame, parce qu'on a plus assez de temps. Il reste 5 minutes. Merci beaucoup, madame Marie-Cécile. Je crois qu'on n'a pas assez de temps. On aurait bien souhaité, d'ailleurs, vous avoir dès le début. Ben voilà. Alors, monsieur Vital Caméré, on va conclure avec vous. Mais j'aimerais bien qu'on commence d'abord par cette. Vous avez, à cette époque, exigé, demandé, sollicité, plaidé pour un dialogue, pourquoi pas à Béni, parce qu'il y avait des cas de sécurité à répétition.
Alors, vous m'avez racheté le mot dans la bouche. J'ai voulu dire à Albert de Kinshasa que j'avais proposé les dialogues, mais un dialogue dans l'intérêt du peuple congolais. On ne peut pas dialoguer si le partage de pouvoir à Kinshasa, alors que les gens sont en train de mourir à Beni, Lubero, Butembo, Rutshuru, c'est inacceptable. J'avais dit, président Kabila, président Tshisekedi, tout le monde transporte nous à Beni. Ce ne sont pas des animaux qui vivent là-bas, ce sont des êtres humains comme nous. Allons dialoguer là-bas. Et les gens ont dit, j'ai ramené la question au niveau territorial. Non, c'est sûr, le pays, c'est comme un organe humain. Quand le bras est blessé, c'est tout le corps qui est blessé. Nous avons essayé au niveau des Kinshasa, nous-mêmes, à faire un dialogue entre les Hutus et les Landais. Ils ont fait le diagnostic ensemble. Ils ont identifié quelques solutions, notamment les renforcements de l'autorité de l'État, qu'on change tous les militaires qui sont là-bas, que la MONUSCO soit là en train d'appliquer son mandat en train de protéger les populations. Dernièrement, on a tué un prêtre à Beni, à Butembo, on vient de tuer un préfet à Rutshuru, on avait assassiné les gens à Miriki, on a tué les gens à Nyanzale, on a tué les gens à Rutshuru, on tue partout, c'est devenu comme une véritable jungle. Et ils ont identifié des solutions ensemble. Mais quand on a voulu faire les derniers sauts pour qu'ils signent les documents qui étaient attendus et puisqu'ils étaient salués par les conseils de sécurité, quand ils ont voulu signer les documents, on a dit non, mais là le gouvernement reprend l'initiative, ils ont été convoqués, d'abord chez le ministre de l'Intérieur, ensuite je ne sais où. Et puis finalement, c'est pour torpiller une démarche qui était en train d'avancer. La MONUSCO nous avait déjà donné son OK pour les hélicoptères qui devaient nous amener partout là où il y a des problèmes. Donc je ne suis pas le genre de personne qui fuit les problèmes, je les affronte avec la population. Je voudrais dire à M. Michel, dont je salue vraiment la facture intellectuelle. On a senti il est très
dans cette intervention.
Et il n'a pas dit du mensonge. En 2006, effectivement, j'avais écrit un livre pour soutenir le président Kabila. Autre temps, autre mars. Parce que nous avions trois zones géographiques. Il y avait la zone qui était contrôlée par les RCD, appuyée par les Rwanda, et la zone qui était contrôlée par les MLC, appuyée par l'Ouganda. J'ai oublié ça, il y avait une partie qui restait au gouvernement. Michel Aurélien Désiré Kabila avait à ce moment-là scellé les bureaux du facilitateur Massiré. Et nous avons dit au président Kabila, dans ce discours du 26 janvier, faites trois choses. Dialoguer avec les Congolais. Deux, dialoguer séparément avec le Rwanda et l'Ouganda. Et trois, donner aux Congolais l'occasion de se choisir à l'issue d'une transition librement leur président. Et moi, j'étais secrétaire général du PPRD. Vous voulez que je fasse la campagne pour qui à ce moment-là? J'ai fait la campagne pour le président Kabila. Il a fait des promesses pour le peuple congolais. Il n'appartenait pas à Vital Kamerhe d'aller travailler dans le bureau du président Kabila à sa place. Quand j'ai vu que ça n'a pas marché, je n'ai pas hésité à quitter. À 2 ans, 3 mois de mon mandat, qui peut sacrifier son mandat aujourd'hui? Je voudrais dire à Madame Cécile, puis ce fan de Cécile, Madame Alphonse, tout le monde, je remercie. Saboli, je vous remercie vous tous. Nous voulons dire ceci. Conclusion. C'est le rassemblement de l'opposition. Il n'y a pas de problème entre les leaders de l'opposition. Il y a des perceptions peut-être différentes. Il y a peut-être des décalages dans les calendriers. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que nous ne pouvons pas nous recentrer sur ce que nous avions convenu dans le cadre du Front citoyen? Puisque avec le Front citoyen, nous sommes forts et nous sommes proches du peuple. Je voudrais donner raison à Michel. Si nous, les leaders, nous ne poussons pas suffisamment le peuple, que le peuple nous pousse, ce sera la révolution et dans le cadre de la constitution de la République. Et je remercie tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui. Et j'ai dit, le Congo, c'est un grand pays, un grand peuple, et j'ai espoir que ce Congo va se relever et sera le moteur du développement de l'Afrique. Je l'ai dit en France, et je le dirai partout. Nous sommes un grand peuple, on ne mérite pas la honte qui est la nôtre aujourd'hui.
Merci, Vital Kamerhe, président national de l'UMC et président honoraire de l'Assemblée nationale, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté de faire le déplacement de ce studio pour partager ces 57 minutes avec les auditeurs. Je crois que vous avez eu à évaluer donc le niveau des auditeurs qui réfléchissent sur les questions de l'avenir de notre nation. Donc on se retrouve demain, chers auditeurs, pour un autre numéro. Merci à Eric Sidiakala et à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Pierre Lamégé à la réalisation, Julie Fonzabongonda au standard, et Yir Lungembo a eu le plaisir de coordonner et de présenter cette émission. À très bientôt.